Radio Okapi.
Calmi, c'est lundi à Jomba, dans le Rutshuru. Aucun tir n'est entendu après les affrontements de ce week-end entre l'armée et le M23. Le porte-parole du gouverneur parle de l'attaque de leur position par ce mouvement rebelle en violation du cessez-le-feu. Déraillement hier dimanche du train New Express Diamant-Béton de la SNCC entre les villages de Ngouba et de Moutaka dans le territoire de Louboudi. Un grand camion de marque Oyo a percuté la locomotive, causant l'accident. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais les dégâts matériels sont énormes. Notre invité, c'est Joseph Amissi Tété Lubango, écrivain et auteur du livre intitulé « Démocratie communautaire comme alternative africaine, pacte social en RDC ». Il déplore le fait qu'il n'existe aucune structure pouvant encadrer les jeunes en écriture dans la province du Maniema. Bonjour à tous. Cette édition part du Nord Kivu. Une accalmie s'observe ce lundi dans la région de Jomba où aucun tir n'est entendu après des affrontements qui ont opposé le week-end l'armée régulière au M23 dans cette partie du territoire de Rutshuru. Les deux parties ont repris subitement des combats samedi dans l'après-midi. C'était après une dizaine de jours d'accalmie. Dans une déclaration rendue publique hier dimanche, le porte-parole du gouverneur a parlé de l'attaque de leur position par le M23 en violence du cessez-le-feu. Le général Sylvain Ekenge a souligné que les FRDC ne se laisseront pas narguer par les rebelles. Un extrait de sa déclaration est choisi ici par Sifamagou.
Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion dans la journée du samedi le 23 avril 2022, aux environs de 15 heures locales, le M23 a attaqué les positions des FRDC des Bugusa, Kinyamahura, Rwambeo, Tchéa 1 et Tchéa 2 dans le territoire de Rutshuru, violant ainsi la trêve et le cessez-le-feu décrété pour permettre l'aboutissement heureux des consultations de Nairobi. Face à cette situation et aux intentions bellicistes du M23, les forces loyalistes tirent les conséquences qui en découlent et ne se laisseront pas narguer par ces hors-la-loi dont l'objectif est d'endeuiller la paisible population et de la plonger dans la misère la plus noire.
Troisième jour, c'est lundi, des consultations sur la paix entre le gouvernement congolais et les groupes armés à Nairobi. Au Nord Kivu, les groupes armés locaux déjà conviés attendent les moyens pour rejoindre la capitale kényane. Pendant ce temps, nombreux autres groupes affirment n'avoir pas encore reçu d'invitation formelle. Bernard Denyangui pour plus de détails.
Jusqu'à la fin de la matinée ce lundi, une grande délégation des représentants des groupes armés du Nord Kivu qui ont déjà finalisé les formalités pour le voyage à Nairobi attendaient toujours leur avion à Goma, selon les sources proches de ce groupe. Il s'agit entre autres d'un de ces rénovés de Mapenzi Fidel et de Ziren Gabo, l'UPDC de Bilikoliko, FDDH Nyatura de Dusabe Gachamira, GAV de Matata Suleiman, AFRC de Kakule Massivi et APCLS L. Paul Mwanuka. Nombreux autres groupes armés importants affirment avoir déjà été contactés, mais disent attendre une invitation formelle pour cette mission en Nairobi. C'est entre autres l'APCLS de Janvier Kalaeri, dont le porte-parole précise que leurs délégués attendent encore une confirmation plus convaincante avant de venir à Goma pour des formalités. Même chose pour le collectif des mouvements pour le changement SEM Signatura de Rutshuru et FPP de Cabidon, actifs en territoire de Lubero. Aussi, selon nos sources, les délégués de ces groupes armés locaux en attente à Goma depuis deux jours se plaindraient déjà du fait que leur prise en charge ne soient pas encore assurés. Goma, Bernard Denyangui, Radio Okapi.
En Ituri, les leaders des groupes armés se disent prêts à participer aux consultations qui se tiennent à Nairobi au Kenya. Cependant, ils déplorent le silence du gouvernement qui n'a rien dit jusqu'ici pour faciliter leur déplacement en vue de prendre part à ces assises pour la pacification de l'Est de la RDC. Nous n'avons pas encore la réaction de l'exécutif provincial à ces sujets. Isaac Remoyope nous fait le point.
Parmi les milices qui sont actives en Ituri, à la force patriotique et intégrationniste du Congo FPIC et l'Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais IRDPC CODECO. À cela s'ajoute la force des résistances patriotiques de l'Ituri FRPI qui avait signé depuis deux ans un accord de paix avec le gouvernement. Le leadership de la CODECO indique qu'il a reçu il y a quelques jours un appel anonyme pour solliciter leur participation à cette rencontre à Nairobi. Mais aucune source officielle n'a encore contacté cette milice pour les modalités pratiques. Cependant, ils se disent favorables au processus de paix initié par certains chefs d'État de l'Afrique de l'Est. Même réaction du côté de la milice FPIC qui attend les orientations des autorités pour participer à ces assises. Du côté du groupe armé FRPI, ses leaders attendent l'application des clauses de l'accord signé en février 2021 à Guéti. Nous n'avons pas encore la réaction du gouvernement militaire de l'Ituri par rapport à ces doléances de ces différents groupes armés. Bounia Isakre Moyope, Radio Okapi.
Retournons au Nord Kivu où l'appel à deux journées ville morte n'a pas été suivi partout. À Butembo, si quelques activités ont été fermées, à Beniville, tout s'est déroulé normalement, tout comme à Kaina et Kanyabayonga. Certains groupes de pression avaient appelé à des journées ville morte pour réclamer la fin de l'état de siège qui n'a pas donné les résultats escomptés. Grâce à Mzati, nous fait le point.
Dans la ville de Butembo, certaines boutiques, magasins et officines pharmaceutiques au centre commercial sont restées fermées, tout comme certaines écoles. Dans les territoires de Lubero, la situation est presque similaire à Lubero Centre ainsi qu'à Kirumba. À Beniville, le mot d'ordre n'a pas été suivi des faits. La circulation est restée normale et les activités socio-économiques ont fonctionné normalement. Banques, boutiques et marchés sont restés ouverts. Hormis une tentative de barricade de la route Beni-Oicha par des manifestants qui ont été vite empêchés par les forces de l'ordre. Idem dans les communes rurales de Kaina, Kanyabayonga ainsi que dans les secteurs de Bapere où tout se déroule aussi normalement. Cependant, une forte présence de l'armée et de la police est visible à travers plusieurs endroits chauds de la ville de Beni. Selon le porte-parole de la police, ce déploiement vise à parer à toute éventualité. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Je l'ai annoncé dans les titres, le train New Express Diamant Béton de la SNCC en provenance de Mweneditu a connu un déraillement hier dimanche entre les villages de Ngouba et de Moutaka dans les territoires de Louboudi, province du Lualaba. Cet accident est causé par un grand camion qui a percuté la locomotive. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais les dégâts matériels sont énormes, notamment sur les camions qui transportaient des minerais. D'autres détails avec Jean Gandou.
C'est ce dimanche aux environs de 23 heures que la circulation a été rétablie sur cet axe routier de la nationale numéro 1 sur la route Colésée. La locomotive et la voiture à générateur qui ont quitté le rail après ce choc ont barré la route pendant plus de 10 heures. Cela a fait que des centaines de camions transportant les minerais, les bus, les transports en commun et autres étaient restés bloqués de part et d'autre du lieu de l'accident. D'après nos sources, la locomotive a subi quelques dégâts, mais le camion est sérieusement endommagé. Seule la carrosserie transportant le minerai est restée intacte. Le chauffeur s'en est miraculeusement bien sorti, mais il est aux arrêts. Lors de son audition, il aurait reconnu que le système de freinage de son véhicule posait problème. Voilà pourquoi il voulait à tout prix traverser vite le rail avant que le train n'atteigne le passage à niveau. C'est ainsi qu'il est allé percuter la locomotive. Notons que la direction générale de la SNCC a mis à la disposition des passagers qui étaient à bord du train et qui sont sains et saufs des bus qui les ont transportés jusqu'à Lubumbashi, leur destination finale. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Dans la province du Maniema, parlons de cette opération de distribution de l'assistance du gouvernement central aux sinistrés du conflit communautaire du 21 décembre 2021 à Kayuyu, dans le territoire de Kasongo. Au total, 182 ménages viennent de bénéficier en début de week-end d'un don constitué des vivres et non-vivres. C'était en présence du coordonnateur de la sous-commission chargée de cette distribution et représentant du gouverneur intérimaire que cette cérémonie a eu lieu à la grande satisfaction des bénéficiaires. Florence Kizalunga, reportage.
L'assistance du gouvernement Samaloukonde était constituée pour chaque ménage de 32 tôles, 9 kg de clous, matelas, 25 kg de haricots, 21 kg de riz, huile végétale, bassin, bidon, casserole, gobelet, assiette et seau. À part le ménage, les centres de santé de Kayuyu et ses deux postes ont bénéficié près de 15 tonnes de médicaments, sans oublier les matériels de construction de la mosquée et de l'école primaire Moussada. Certains bénéficiaires témoignent.
Je suis content pour recevoir les lots des médicaments et nous félicitons notre président de la République pour pouvoir penser à la population de Kayuyu. Nous allons gérer ces dons comme responsable.
Nous étions frappés d'un incendie et aujourd'hui, notre réjouissance arrive du fait que le gouvernement national tant que provincial vienne en aide pour nous servir. C'est pourquoi il y a une grande masse qui se réjouit à propos de cet acte qui se déroule aujourd'hui.
Le déroulement de cette opération qui a duré deux jours, soit du 20 au 21 avril, a été salué par la société civile locale. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
En santé, au Sud Kivu, le paludisme est la maladie la plus meurtrière dans la province. D'après l'antenne provinciale du programme de lutte contre le paludisme, le taux de prévalence est de 170 cas pour 1000 habitants et c'est un seuil inquiétant. En cette journée dédiée à la lutte contre le paludisme, le programme provincial insiste sur l'utilisation correcte des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée et l'assainissement du milieu. Mais Cynthia Bachizi Nabizana, comment s'organise la prise en charge dans la province?
Officiellement, le paludisme est pris en charge gratuitement dans les structures de santé du Sud Kivu. C'est notamment la consultation, le test de diagnostic rapide et les médicaments que le gouvernement et ses partenaires mettent à la disposition des malades. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés. C'est ainsi qu'au moment de sa première consultation prénatale, la femme enceinte reçoit un traitement préventif et une moustiquaire imprégnée d'insecticides. L'enfant de moins de 5 ans reçoit également le même type de moustiquaire lorsqu'il termine son calendrier vaccinal. Le défi aujourd'hui pour le programme de lutte contre le paludisme dans la province est le taux de fréquentation des consultations prénatales qui est très faible. Cela ne favorise pas une bonne prévention. Par ailleurs, l'assainissement de nos milieux pose problème car les endroits non assainis peuvent constituer des gîtes pour les moustiques. Le programme provincial de lutte contre le paludisme invite donc la population à procéder régulièrement au drainage des eaux stagnantes. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, il n'y a pas eu messe dimanche matin à la paroisse Saint-Joseph de Miabi. Les chrétiens ont barricadé les voies d'accès de cette paroisse et pour cause, la fermeture samedi de la cathédrale par les curés pour empêcher le baptême des enfants des fidèles par le vicaire. La messe de dimanche a été dite le soir par une délégation dépêchée sur place par les autorités du diocèse. Certaines sources signalent cependant la suspension de ces deux prêtres par leur hiérarchie, une information non confirmée par la chancellerie du diocèse de Mbujimayi. Esther Ndalafina nous raconte.
Les autorités locales affirment que les prêtres ont trouvé le dimanche matin des barricades érigées par certains fidèles sur les voies d'accès de la paroisse Saint-Joseph de Miabi. La même source précise que certains fidèles ont manifesté la colère contre la fermeture de la paroisse samedi par le curé pour empêcher le baptême des enfants par le vicaire dans le cadre du conflit qui les oppose. Cette cérémonie a été délocalisée dans une école de la place parce que les parents s'y étaient déjà bien préparés. Pour manifester leur colère, certains fidèles ont à leur barricader les portes de l'accès de la paroisse dimanche matin pour empêcher la tenue de la messe. En plus, d'autres fidèles s'insurgent contre les propos jugés discourtois de l'abbé curé prononcés au cours des précédentes célébrations eucharistiques. Les dimanches des rameaux, le curé avait refusé de bénir les rameaux des fidèles à la déception de tous les fidèles qui attendaient célébrer symboliquement dans leur maison l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem. Les fidèles désapprouvent aussi le climat malsain qui règne entre le curé et son vicaire depuis quelques mois autour des finances du diocèse. Toutes nos tentatives pour joindre les deux prêtres se sont avérées vaines. La délégation partie du diocèse de Mbujimayi pour Miabi ce dimanche a dit la messe le soir et se trouve encore sur place. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale. Emmanuel Macron a été réélu pour un nouveau mandat le 24 avril 2022, une élection scrutée avec une attention particulière en Centrafrique où les relations sont de plus en plus tumultueuses avec l'ancien pays colonisateur à Bangui. L'annonce est accueillie avec une certaine amertume dans la classe politique, mais la politique d'Emmanuel Macron inquiète moins que celle de Marine Le Pen. Au Soudan, les conducteurs de motos de la capitale, Khartoum, ne pourront désormais plus transporter de passagers à l'arrière de leurs deux roues, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Décision prise par le gouverneur de l'État pour lutter contre la multiplication des vols violents, parfois à main armée par des individus montés sur des motos. Le Soudan fait face à une vague de criminalité sans précédent, alors que le pays s'enfonce dans une grave crise économique 6 mois après le coup d'État militaire.
L'invité.
Notre invité, c'est Joseph Amissi Tété Lubango, écrivain et auteur du livre intitulé « Démocratie communautaire comme alternative africaine, pacte social en RDC ». À l'occasion de la Journée mondiale du livre et des droits d'auteur, célébrée le 23 avril de chaque année, il déplore le fait que, au Maniema, il n'existe aucune structure pouvant encadrer les jeunes en écriture. Il plaide donc pour la création d'un centre culturel. Joseph Amissi Tété Lubango s'entretient avec Florence Kizalunga.
Bonjour Monsieur Joseph Amissi Tété.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et auteur du livre intitulé « Démocratie communautaire comme alternative africaine, pacte social en RDC ». Qu'est-ce que ça signifie?
Oui, dans mon livre, je propose un nouveau pacte social dans notre pays et en Afrique, parce que c'est un projet politique structurant panafricain. Nous proposons en fait un autre modèle de société alternative à celle que nous avons héritée de la colonisation. Voilà succinctement ce que cela signifie, démocratie communautaire comme alternative africaine, pacte social en RD Congo.
Votre livre semble toucher des questions d'actualité politique au pays. Quel est son contenu?
Oui, parce que nous proposons un autre système politique alternative à celui que nous avons hérité de la colonisation. Il touche la politique parce que, effectivement, c'est un projet politique structurant. Nous proposons une nouvelle forme de démocratie telle qu'elle a été vécue dans la Grèce antique et en Afrique aussi. Ça signifie qu'il faut au préalable organiser les populations à la base et étendre cette démocratie à toutes les couches de la population. Et structurer parce que ces communautés sont des sous-systèmes politiques, sociaux, économiques stables, indépendants des citoyens qui la composent. Ce sont des structures stables et qui deviennent des institutions de la République au même titre que la présidence de la République, l'Assemblée nationale ou provinciale, le Sénat. Non, nous, on n'a pas prévu le Sénat.
Votre livre est lu dans les grandes universités européennes, mais dans aucune université de la RDC. Pourquoi ces contrastes?
Oui, parce que au départ, dans le contrat avec l'éditeur, les services ont été non payants. L'éditeur a lu le manuscrit, il l'a trouvé intéressant, il a dit je le publie, sans payer un sou. Et maintenant, parce que ce livre-là, c'est un best-seller, il coûte 71,90 €, l'équivalent de 90 $ aujourd'hui. Ce livre, qui pourrait l'acheter à Kindu ou à Kinshasa à 90 $? Je suis donc dans l'impossibilité de racheter mes livres à ce prix-là. Voilà pourquoi je suis bloqué. Et le message de détresse aujourd'hui, c'est demander à un mécène, à un des hommes de bonne volonté ou à un éditeur qui pourrait rééditer mon livre et le vendre sur le marché congolais à un prix plus abordable. Parce que le livre, il est aujourd'hui traduit en anglais, en espagnol et en portugais. Il est lu dans toutes les universités européennes et voilà, nulle part en République démocratique du Congo.
Vous parlez d'une situation de détresse, du fait que vous n'êtes pas entré en possession d'une copie de votre livre. Pourquoi et comment, monsieur Joseph?
Oui, parce que, je l'ai dit un peu au début, le service a été gratis. L'éditeur a trouvé tout simplement que c'est intéressant, il publie. Et son champ de marché, ce sont les universités européennes uniquement, pas ailleurs. Voilà pourquoi, même vous êtes à Bruxelles, à Paris, vous ne pouvez pas entrer dans une librairie et vous trouvez mon livre. Non, c'est seulement dans les universités. Voilà pourquoi je ne suis pas en possession de mon livre.
Est-ce qu'on peut avoir l'adresse des éditeurs?
Oui, les éditions universitaires européennes avec email info@omniscriptum.com.
Et voilà que l'humanité célèbre chaque année le 23 avril la Journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Quelle est la situation au Maniema?
Bon, au Maniema, c'est nul. Il n'y a rien du tout qui est organisé. Au départ, il y a des associations d'écrivains. Quand les écrivains se retrouvent ensemble, ils créent cette association. Et ce sont eux qui peuvent mener des actions en allant vers les écoles, vers les jeunes, susciter l'intérêt de la lecture et de l'écriture.
Qu'est-ce qui vous manque en province pour que vous ayez cette association?
Oui, il est vrai que je l'ai remarqué et j'ai soumis ce projet à Monseigneur François, l'évêque de diocèse de Kindu. Il est au courant de ma préoccupation et lui aussi, il est préoccupé de cela. Et nous espérons que un de ces quatre matins, il pourrait, parce que nous sommes allés plus loin, nous avons proposé de la création d'un centre culturel du Maniema. Et au sein de ce centre culturel du Maniema, on trouverait une bibliothèque.
Est-ce qu'au Maniema, il existe d'abord une structure qui encadre les jeunes en écriture?
À ma connaissance, non. Par contre, je connais qu'il y a deux ou trois écrivains, ce sont des professeurs d'université seulement.
Vous êtes écrivain et auteur. Quel serait votre souhait à la jeunesse?
C'est susciter l'intérêt de lire et plus tard d'écrire.
Monsieur Joseph Amissi Tete Lubango, grand merci à vous.
Je vous remercie, madame.
Et c'est sur ce souhait que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.